Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Dieu a tout fait pour que nous venions à lui et nous allons venir à sa parole en lisant le texte de la prédication dans l'évangile de Marc. Au chapitre 9, Marc 9, des versets 30 à 41. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de le questionner. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de vous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et après l'avoir embrassé, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom, un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre moi, qui n'est pas contre nous, est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. »
Pas de sang, pas de vie. Pas de Saint-Esprit, pas de vie dans sa parole. Nous comptons toujours encore sur l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs ce matin pour que cette parole soit vivante dans nos cœurs et dans nos vies. Dans notre cheminement de l'évangile intitulé Marc, nous continuons à admirer les paysages que Pierre, un disciple proche de Jésus, a voulu transmettre et que Marc a mis par écrit, comme dans un journal. La dernière fois, nous avons vu que Pierre a voulu nous faire comprendre le résultat de l'incrédulité face au mal et nous a encouragé à placer notre foi en celui seul qui peut nous délivrer du mal, Jésus-Christ. Il nous a encouragé à la prière. C'était en lien avec ce miracle du démon qui n'avait pas pu être chassé par les disciples. Peut-être vous souvenez-vous. Depuis Marc 8, Jésus enseigne plutôt en privé, comme ici. Et il commence son chemin vers Jérusalem, où il va vivre le cœur de sa mission. Son œuvre illustre l'humilité. Il enseigne sa mission à ses disciples et nous en avons un résumé aujourd'hui, dans la première partie. Les disciples ne comprennent rien et même ils parlent et agissent de manière orgueilleuse. Là, Jésus encore réagira en manifestant de l'humilité et en faisant la promotion de l'humilité. C'est en fait une marque d'un membre du royaume de Dieu, l'humilité. Nous parlerons donc aujourd'hui de l'humilité et également du contre-exemple de l'orgueil des disciples. Le titre de cette prédication est « L'humilité de Jésus contraste avec l'orgueil des disciples ». Il est intéressant de constater que dans le plan divin de Dieu, nous avons étudié Éphésiens 4, 2 à la dernière étude biblique, un verset que nous devons chercher à vivre de toutes nos forces, particulièrement dans les temps actuels. Nous y trouvons 4 éléments à vivre à tout moment, et c'est le premier que Jésus enseigne aujourd'hui. Si jamais Éphésiens 4, 2, c'est « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ». Voilà les 4 éléments. Jésus non seulement parle d'humilité ici, mais il la vit. C'est un ingrédient essentiel du salut que nous allons revisiter avec le premier point que j'intitulerai « Jésus annonce son humble mission qui conduit à la gloire ». Ensuite, nous examinerons 2 manifestations d'orgueil que les disciples manifestent ici clairement dans ce texte. et le titre sera « Les disciples débordants d'orgueil » pour après réfléchir à la réponse que Jésus donne à ces manifestations dans un troisième point que j'intitule « Jésus enseigne l'humilité avec un enfant et un verre d'eau ». Voilà donc le menu de ce matin. Jésus annonce sa mission d'humilité qui conduit à la gloire. Relisez avec moi les versets 30 à 32 de Marc 9. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre la main des hommes et le feront mourir, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de le questionner. Jésus parle ici pour la deuxième fois, en fait, de ce qui va lui arriver à ses disciples. La première fois, c'était dans Marc 8. Vous pouvez regarder verset 31, juste un tout petit peu avant dans nos Bibles, où il a dit « Il commence alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. » Et à cette annonce, à ce moment-là, Pierre a pris Jésus à part et lui a dit « Mais ça ne t'arrivera pas, ça ne peut pas se passer comme ça. » Parce qu'en fait, l'eschatologie messianique des disciples disait que le Messie, le Christ, viendrait délivré de l'oppresseur romain et qu'il régnerait sur les hommes. Voilà ce qu'il avait en tête. Donc Pierre a réagi assez fortement. Et Jésus lui a répondu aussi d'ailleurs à ce moment-là. Marc, dans le journal de Pierre, ne nous met pas toutes les paroles que Jésus a échangées avec ses disciples. Et dans cette deuxième fois où il parle de ses souffrances, eh bien nous avons quelque part un résumé de ce qui s'est dit durant tout le chemin, hein, puisqu'ils ont marché ensemble et c'est pendant ce temps-là que Jésus leur a parlé. Or, il a sûrement dit plus de choses que nous avons dans la Bible, mais nous savons, puisque c'est clairement écrit, que les disciples ne comprennent pas et qu'ils ont peur de le questionner. Certains disent que cette incompréhension décrite au verset 32, en fait, est une protection de Dieu sur ses disciples. Une protection de Dieu afin qu'ils ne soient pas anéantis de tristesse à ce moment-là, en comprenant tout ce qui allait arriver. Et donc, ils disent que cela signifie que Dieu nous fait comprendre uniquement ce que l'on peut porter. Ça, c'est vrai. Que Dieu nous donne uniquement ce que nous pouvons porter, puisqu'il est dit qu'aucune tentation n'est survenue qui soit au-delà de ce que l'on peut supporter. 1 Corinthiens 10. C'est possible, mais ici il est dit que les disciples craignaient de questionner Jésus. Ce n'était pas juste qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils craignaient de questionner. Pourquoi craignaient-ils de questionner Jésus? Alors, peut-être qu'ils se rappelaient de la manière dont Jésus a repris Pierre. Quand Pierre a dit « Non, 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 ça n'arrivera pas », qu'est-ce que Jésus a dit? Vous vous rappelez, hein? « Arrière de moi, Satan ». Waouh! Ah oui, ça, ils s'en souviennent. On ne veut peut-être pas qu'ils nous disent la même chose. En plus, tout dernièrement, en descendant de la montagne de Transfiguration, quand il arrive vers ses disciples qui n'arrivent pas à chasser ce démon, eh bien, il dit « Mais jusqu'à quand vous supporterai-je » qu'il dit comme ça. On a vu la dernière fois à qui il s'adressait, mais les disciples ont été impactés par cette parole. Et la suite du texte me fait penser qu'il y a aussi une incompréhension, que ce que Jésus disait ne correspondait pas à leur schéma. Il est en train de parler de souffrance, il est en train de parler d'être livré, d'être mis à mort. Ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient en tête au niveau du Messie. Et ils pouvaient avoir peur, en fait, de lui poser des questions et qu'il donne des réponses qui les éloignent de leurs rêves, de ce qu'ils avaient en tête, de leurs présupposés. C'est vrai que nous avons parfois du mal à demander des éclaircissements parce que ça ne correspond pas à ce que nous souhaitons vivre. Mieux vaut ne pas chercher à comprendre. On ne pourra pas nous reprocher de ne pas faire ou chercher ce que nous n'avons pas compris. C'est la technique de l'autruche, vous connaissez. L'autruche qui, quand elle a peur, met la tête dans le sable. Elle croit que personne ne la voit. Bon. Peut-être que l'annonce de Jésus, que Jésus a fait à ses disciples, n'est pas tout à fait claire pour nous non plus. Et nous aurions de la peine peut-être aussi à l'expliquer. Nous allons donc revenir quelques instants à ce qu'il dit à ses disciples. Regardez au verset 31 du chapitre 9. Car il enseignait et à ses disciples, il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. « Ils le feront mourir. » Ils le feront mourir. « Et trois jours après sa mort, il ressuscitera. Hein, » Il ressuscitera. Jésus annonce trois choses à ses disciples. Il sera livré, il va mourir et il ressuscitera. Pourquoi Jésus sera-t-il livré? Pourquoi est-il dit qu'il sera livré? Alors, c'est logique peut-être, hein, on se dit, mais oui, en fait, le traître l'a livré au sacrificateur, au Sanhédrin. Les Sanhédrins l'ont livré à Pilate et Pilate l'a livré aux soldats. Jésus a été livré. C'est vrai. C'est vrai en fait qu'il a été livré à toutes ces personnes. Mais si les hommes ont une responsabilité dans leur action, c'est l'histoire de Dieu qui se déroule. Et nous pouvons dire que Dieu a livré Jésus. Il fait cela parce que s'il n'avait pas livré Jésus, c'est nous qui aurions dû être livrés. En fait, il est livré à la place de ceux qui méritaient la justice divine et qui vont à Christ. Et il est intéressant de voir que dans cette deuxième fois où Jésus annonce, il y a trois fois où Jésus annonce ses souffrances dans l'évangile de Marc, Marc 8, 9 et 10, dans chacun de ses chapitres. Et en fait, dans cette annonce ici, il y a une petite différence dans la notion de à qui en fait Jésus est livré. Il est livré entre la main des hommes, dit-il ici. Ce n'est pas simplement les acteurs de l'époque comme on l'a entendu dans la première fois et comme ce sera dit dans la troisième fois. Mais ici, il est parlé en fait des hommes de l'humanité quelque part. C'est comme si nous avions précipité la mort de Jésus. Et en fait, c'est bien le cas, puisque nos péchés sont en cause dans la mort de Jésus. La question que nous devons chacun donc nous poser avec un très grand sérieux, c'est est-ce que Jésus a été livré pour moi? Est-ce qu'il a été livré à ma place? C'est une question très importante. À laquelle il est important de pouvoir répondre maintenant, parce que c'est maintenant en fait que nous pouvons savoir si nous sommes sauvés ou non. Donc si oui, nous pouvons être tranquilles, il a tout payé, il a tout payé. Si non, eh bien cela signifie qu'il faut payer soi-même toutes les fautes que l'on fait. Et en réalité, c'est impossible. L'espoir est en Jésus seul, qui va mourir à la place de celui qui croit et revenir à la vie pour prouver que ce sacrifice est accepté par Dieu. Et il illustre aussi le fait qu'il nous donne une nouvelle vie. L'espoir en Jésus est en Jésus qui va mourir à la place de celui qui croit et revenir à la vie pour prouver que ce sacrifice sera accepté par Dieu. Donc lorsque vous entendez que Jésus dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et trois jours après sa mort, il ressuscitera », c'est un message tout à fait personnel. C'est un message pour l'Église et c'est un message pour chacun qui vient à Christ. Jésus est venu humblement pour sauver son peuple. Les disciples pensaient qu'il allait prendre les armes et qu'il allait contre les Romains pour juger l'oppresseur d'une époque, de cette époque. Mais Jésus est venu prendre le jugement sur lui afin de nous libérer de l'oppression du péché de toutes les époques. Donc un renversement complet. Les disciples pensaient qu'il allait venir juger les gens pour enlever l'oppresseur de l'époque, alors que Jésus a pris le jugement sur lui pour nous libérer de l'oppression de toutes les époques. Un peu comme s'il était venu vivre toutes les maladies du monde à notre place, il en est mort, mais il a vaincu cette mort en ressuscitant. Et il peut maintenant nous donner la santé de l'âme. Il suffit de l'accepter. Chercher à comprendre ce que Jésus dit à ses disciples, c'est un élément fondamental. Parce que c'est là que se trouve la vie, la libération, la joie et le pardon. En fait, l'Évangile. Et en nous repentant de nos péchés, en croyant qu'il est venu nous libérer de la mort, eh bien nous pouvons être certains d'être sauvés des souffrances éternelles. Donc là, ne suivons pas les disciples qui, ne comprenant rien, ne questionnent pas Jésus. Il est possible que nous ne comprenions pas, ça c'est clair, mais posons des questions. Jésus va y répondre. Il va le faire avec bienveillance. Pierre n'a pas posé de questions quand Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ». Pierre simplement lui a dit que ça n'allait pas se passer.
Il a pris autorité sur Jésus.
Poser des questions n'est jamais un lieu où Jésus nous rejette.
Cherchons à comprendre aussi les enseignements de Jésus afin de les mettre en pratique et être prêts pour ce qui est devant nous, sachant que nous ne serons jamais seuls. Il est vivant pour toujours. Si les disciples avaient pu comprendre ces éléments, ils auraient aussi pu être prêts par rapport à ce qui arrivait. Dieu a fait autrement avec eux, il prend soin. Et ça, c'est aussi notre assurance. On peut être rassuré, même si c'est vrai, nous ne comprenons pas tout, il prend soin de nous. Mais parfois, il nous permet de comprendre pour nous préparer à ce qui vient devant nous. Alors, comment les disciples ont-ils réagi à cette deuxième fois?
Alors, c'est notre deuxième point, les disciples débordent d'orgueil, en fait.
Et l'orgueil divise et exclut. L'orgueil divise et exclut, nous le voyons clairement dans ce texte. Regardez le verset 33 avec moi. Ils arrivèrent à Capernaum.
Donc là, ils voyagent, ils arrivent à Capernaum. C'était le centre névralgique, si on veut, du ministère de Jésus pour la première partie.
Lorsqu'ils furent dans la maison,
bon, laquelle était-ce? C'est pas écrit. Comme c'est Pierre qui est un peu dérissant, on peut penser que c'est où habitait Pierre, comme on l'avait vu avec sa belle-maman.
Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda. De quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Imaginez les disciples en randonnée. Ils marchent dans la campagne et discutent ensemble. Ça, vous êtes déjà tous arrivés. On le fait même régulièrement dans le cadre de l'église. On va se promener, on discute. Juste une chose, il faut aussi savoir qu'à l'époque, la notion de rang, de place d'honneur, était très importante et très souvent discutée. Dès qu'on allait en visite chez quelqu'un, la question se posait quelle était la place qui allait être donnée à qui, selon son rang. Lorsqu'on invitait des personnes, c'était le même questionnement. Lorsqu'il y avait des mariages, la même chose à la synagogue également, ou même au temple. En fait, un peu partout, chacun se plaçait ou était placé selon son rang. Et Jésus fait mention de cela dans Luc 14, je vous lis ce texte parce que ça nous permet de saisir un peu la situation de l'époque. Jésus dit comme ça à ses disciples, « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, « Cède-lui la place. » Tu aurais alors honte d'aller occuper la dernière place. » Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, monte plus haut !» Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Simplement pour vous dire, c'était quelque chose d'usuel à l'époque. Ce n'était pas surprenant. Et les pharisiens se demandaient d'ailleurs qui serait le plus proche du trône de Dieu pour l'éternité. Est-ce que c'est celui qui a le plus étudié? Est-ce que c'est celui qui a le plus prié? Est-ce que c'est celui qui a le plus donné d'argent? Enfin bon, etc. Cela semble un peu risible, mais ne faisons-nous pas parfois un peu la même chose? Par rapport aux places que l'on veut prendre, est-ce qu'on ne choisit pas la meilleure place pour voir le spectacle qu'on a voulu aller voir? Ou le meilleur endroit pour être le plus proche possible du gâteau au chocolat? Ou êtes-vous assis à la place que vous pensez la meilleure ici dans l'église? Un bon test serait de venir vous dire, écoutez, on vous demanderait de vous déplacer. Et ça permettrait de vous rendre compte, si vous êtes motivé par votre royaume d'avoir cette place-là, ou de dire, je suis ici et si ça peut être utile pour quelqu'un d'autre d'avoir cette place, je la cède volontiers. Vous voyez? Donc on a des tests qui nous permettent de nous rendre compte si nous sommes dans ce cheminement ou non. Mais les disciples qui ont tout quitté pour Jésus se réjouissent de son royaume. Et ils pensent que Jésus va bientôt régner, que c'est le moment d'avoir de bonnes places. Alors chacun dit pourquoi il mérite la meilleure place. Vous entendez Pierre, par exemple, qui dit « Eh les gars, moi j'ai marché sur l'eau, hein. N'oubliez pas, hein. » Puis là, t'as Judas qui répond « Ouais, mais t'as coulé, heureusement qu'il t'a rattrapé, hein. » Puis après, t'as Nathanaël qui dit « Ah non, mais vous savez, quand je suis arrivé vers Jésus la première fois, il m'a dit que j'étais un homme droit. » Alors, franchement, c'est moi qui ai l'honneur d'avoir la meilleure place, une place d'honneur. Puis là, Philippe, il dit, t'oublieras pas que c'est moi qui t'ai amené vers Jésus, hein. Puis André qui arrive, il dit, moi j'ai amené Pierre vers Jésus. Oh, peut-être même qu'ils commencent à compter les miracles qu'ils avaient faits, puisqu'ils étaient déjà allés aussi chasser des démons. Enfin, Et chacun se disait, mais qu'il méritait avoir plus de place, ou la meilleure place. Mais tout était en fait centré sur soi, sur son petit royaume personnel. En fait, si les disciples étaient intéressés par le royaume de Jésus, c'était pour avoir leur place d'honneur. L'orgueil amène toujours la division. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Christ, enfin, je suis le meilleur et je ne veux surtout pas que tu prennes ma place, ou bien que tu comprennes que tu es dans un mauvais chemin. L'orgueil écrase et cherche une place au détriment des autres. L'orgueil sème la discorde, la honte. Les disciples n'osent même pas dire à Jésus qu'ils ont parlé de ce sujet-là. L'orgueil mène au ressentiment, à la jalousie. Lorsque nous voyons des divisions, c'est que l'orgueil est certainement de la partie. Lorsque nous voyons des divisions, c'est que l'orgueil est certainement de la partie. Alors, examinons-nous et repentons-nous devant Dieu. Si l'orgueil amène les divisions, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, l'orgueil exclut également. Si l'orgueil divise, il exclut. Regardez au verset 38. Jean lui dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jean ne connaît pas cet homme, il n'a rien demandé à Jésus, et il a décidé d'empêcher de chasser les démons au nom de Jésus. La dynamique de l'orgueil pousse à se dire les privilèges dans le royaume de Jésus, ben, il n'y en a peut-être pas tant que ça, on est déjà 12, c'est déjà pas facile de nous départager entre nous, donc il ne faut pas encore que d'autres personnes commencent à venir demander leur place. Cela nous fait penser à ce qui s'est passé dans le désert du temps de Moïse. Hein. Deux hommes commencent à prophétiser parmi le peuple, et cela est rapporté à Moïse, et Josué est là à côté. Josué dit « Hé Moïse ! Arrête-les! Fais-les arrêter! » C'est un peu la même notion que les disciples ici. Comme nous pourrions dire que les églises qui ne pensent pas comme nous devraient arrêter d'annoncer l'évangile, de parler de Jésus. Quel orgueil! L'orgueil ne veut pas donner, mais exclure. L'orgueil veut exclure, éliminer, empêcher les actions qui pourraient attirer l'honneur convoité, même si les actions sont bonnes. L'orgueil ne veut pas donner, mais exclure, éliminer, empêcher les actions qui pourraient attirer l'honneur convoité, même si ces actions sont bonnes. Ça peut sembler sombre, mais l'orgueil est sombre. Et il faut qu'on s'en rende compte, pour qu'en fait on s'en détourne et qu'on aille auprès de Dieu. Qu'est-ce que Jésus va répondre à ses disciples? N'oublions pas qu'il a commencé par parler de sa mission, vécue dans l'humilité, qui nous permet de nous repentir de notre orgueil, puisqu'il a été livré à cause de notre orgueil. Jésus va donc prendre un enfant et parler d'un verre d'eau pour répondre. Donc, troisième point, Jésus enseigne l'humilité avec un enfant et un verre d'eau. Alors, l'humilité se focalise sur le service et se réjouit des actions des autres faites au nom de Jésus. Ça, c'est deux éléments importants et je vais les développer. L'humilité se focalise sur le service et se réjouit des actions des autres faites au nom de Jésus. Jésus va enseigner deux vérités importantes et les illustrer. Une expression clé va revenir plusieurs fois. Dans le texte, nous allons le relire, nous allons être attentifs à une expression, c'est « en mon nom ». Cette expression, en fait, se retrouvera plusieurs fois dans le texte et elle est importante. Et nous commençons par l'humilité qui se focalise sur le service, et je vous invite à relire les versets 35 à 37 de Marc 9. Alors, il, donc Jésus, s'assit. Donc ça, c'est après qu'il ait posé la question « À quoi avez-vous parlé ensemble durant le trajet ?» qu'ils n'ont rien dit. Donc, alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Jésus s'assied. Il prend le temps de répondre en veillant à ce que chacun entende. Il les appelle tous. Il leur dit, « Venez, j'ai quelque chose à vous dire. » Vous ne voulez pas dire ce que vous allez discuter. Vous savez, Jésus, il a marché avec eux. Donc, les éclats de voix pour dire qui est le meilleur, à un moment donné, je pense qu'elles sont venues à ses oreilles. Et même, de toute façon, Jésus savait de quoi il en retournait. Mais il s'assied, il les appelle tous. Être le premier, dit-il, c'est être le dernier. En fait, le royaume de Dieu inverse les valeurs du monde. Il inverse les valeurs du monde. Nous ne sommes pas appelés à être servis, mais à servir. Vous savez, j'avais commencé un tableau, j'avais mis toutes les différences du royaume de Dieu qui inverse les valeurs du monde. Peut-être qu'un jour je ferai une prédication sur ce sujet, parce que c'est glorieux et intéressant, mais là on va se souvenir que nous ne sommes pas appelés à être servis, mais à servir. Alors pensez-y la prochaine fois que vous êtes autour de la table familiale ou en compagnie d'amis. Nous sommes appelés à être servis ou à servir. Notre motivation de service n'est pas de gagner quelque chose, mais de partager ce que nous avons reçu. On ne va pas servir pour gagner quelque chose. Non, c'est parce qu'on a reçu quelque chose que l'on va le transmettre par le service. Je n'ai pas besoin de servir pour que Dieu me donne une place d'honneur selon sa bonté. Non, mon souci est donc de servir pour être le meilleur, le plus fidèle possible au roi qui lui s'occupe de la place qu'il va me donner, qui sera la meilleure, qui sera celle dont j'aurai besoin. J'ai déjà ma place d'honneur. Je n'ai pas besoin d'écraser les autres pour l'avoir. Je peux servir parce que j'ai déjà reçu. Vous savez, la fausse humilité, c'est s'écraser. Dire, ouais, mais moi, je ne suis pas très fort. Je ne veux pas parler de ce que je vis. Je suis faible. Ça, c'est la fausse humilité. C'est s'écraser et agir de façon servile. C'est-à-dire, je vais agir parce qu'on me demande de le faire. Puis bon, je le fais, je me donne de la peine. Non, ça, c'est la fausse humilité. La fausse humilité, c'est s'écraser et agir de façon servile. L'humilité, c'est mettre l'autre en valeur. Je suis plus en train de parler de moi, il n'y a pas besoin de parler de moi, je veux parler de l'autre. C'est mettre l'autre en valeur, même le plus petit. Et ça, Jésus va justement le dire. Et servir avec joie. L'humilité, c'est mettre l'autre en valeur et servir avec joie. Et Jésus, pour faire comprendre cela, va prendre un enfant. C'est vraiment chou parce qu'il le prend puis il l'embrasse. Moi, je pense que c'est pour rassurer le petit, déjà, mais c'est aussi pour faire comprendre aux disciples l'importance de ne pas juste donner de l'attention, mais d'embrasser, c'est-à-dire d'avoir un réel intérêt d'être impliqué. C'est alors qu'il parle de ce que j'appelle l'effet représentation. Enfin, l'enfant représente Jésus qui représente celui qui l'a envoyé, donc Dieu. Alors, pourquoi Jésus prend-il ici un enfant? Est-ce qu'un enfant est un exemple d'humilité? Je regarde les parents, ils vont me dire « bien sûr ». Mais non ! Donc, il n'est pas question ici, est-ce que l'enfant est humble ou pas, ce n'est pas la question du tout. Les enfants, comme les adultes, ont une nature pécheresse, ils sont enclins à l'orgueil. Il n'y a pas besoin de leur apprendre ça. L'humilité, on doit l'apprendre, mais pas l'orgueil. Ça vient tout seul. Mais le mot-clé ici, pour comprendre ce qui se passe dans ce texte, c'est « quiconque reçoit ». C'est ça que Jésus veut souligner. Ce n'est pas l'enfant, c'est « quiconque reçoit ». Un enfant en mon nom. Pas quiconque ressemble à un enfant. Quiconque reçoit un enfant. Hein, recevoir un enfant au nom de Jésus, c'est l'exemple d'humilité, particulièrement à cette époque-là. Parce que les enfants n'étaient pas considérés comme des rois, des maîtres de maison, les sujets principaux de discussion ou les références pour toutes les décisions. Nous étions dans l'effet balancier inverse. Bon, je ne dis pas mieux, mais... La grande mortalité infantile et la pauvreté n'aidaient souvent pas à s'attacher beaucoup aux enfants au début de leur vie. Ils n'étaient donc pas considérés. Et il fallait prendre le moins de temps possible avec eux. Mais d'ailleurs, on le vit encore aujourd'hui quand on a des discussions sérieuses. On n'aime pas trop que les enfants viennent nous embêter. Voilà pourquoi Jésus prend le petit enfant comme exemple. Un accueil en son nom du plus petit. De celui qui est mis de côté, qui est méprisé, que la société considère comme sans valeur. On a aussi les fœtus actuellement, ou les sans force. C'est ça être le dernier et le serviteur de tous. Accueillir au nom de Jésus-Christ, même le plus petit. Cela devrait nous motiver à être heureux de faire des services non visibles et sans intérêt pour la gloire humaine. puisqu'on parlait de prendre soin de ceux qui sont faibles, eh bien d'agir contre l'avortement, contre l'euthanasie, le démantèlement de la famille qui fait souffrir tant d'enfants. Et dans les services, que diriez-vous d'un professeur haut placé qui prend son tour à la garderie? D'un directeur qui enseigne l'école du dimanche, d'un architecte qui nettoie les toilettes, d'un médecin qui prend soin des démunis. Ce serait vivre cette humilité qui se focalise sur le service. Ce serait comprendre l'enseignement de Jésus qui dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Alors si Jésus répond à l'aspiration orgueilleuse des disciples d'être le plus grand, il répond aussi à Jean, qui écarte orgueilleusement une personne qui a du succès. Marc aime l'ironie. L'évangile de Marc, il y a de l'ironie. Et ici, il y a une situation comme ça. En fait, les disciples viennent de vivre une situation difficile. Ils n'ont pas pu chasser un démon. Et ici, Jean, il chasse quelqu'un, ou bien il empêche quelqu'un qui chasse les démons. Et là, il les chasse. L'humilité, c'est se réjouir des actions des autres faites au nom de Jésus. Rappelez-vous, l'expression « en mon nom » est une clé ici. Verset 39, Jésus dit, donc après que Jean lui ait dit « écoute, moi j'ai fait du bon travail, j'ai écarté ceux qui n'étaient pas avec nous hein, », il dit, Jésus dit « ne l'en empêchez pas. Car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. » Ne l'en empêchez pas. Ça, c'est une phrase qui devrait résonner dans notre tête. Ne l'en empêchez pas. Elle devrait résonner dans notre tête lorsqu'une personne qui n'est pas de notre milieu ecclésial parle en bien de Jésus. Mais ne l'en empêchez pas. Quand Josué dit à Moïse qu'il fallait empêcher Eldad et Médad de prophétiser dans le camp, il faisait partie là des 70 anciens qui avaient reçu l'Esprit de Dieu, mais ils n'étaient pas venus vers Moïse à ce moment-là. Qu'est-ce que Moïse répond? Ça c'est dans Nombre 11-29. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » C'est ça. C'est se réjouir, en fait, quand l'Esprit agit dans les cœurs. Paul a la même attitude concernant l'Évangile. Nous lisons dans Philippiens ceci. Vous pouvez regarder Philippiens 1, c'est un petit peu plus loin que Marc, versets 15 à 17. Ça doit faire 6 ans ou 7 ans qu'on a eu ça en prédication. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures. Et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe! Ne les en empêchez pas. Qu'importe! De toute manière, que ce soit sous un faux prétexte, que ce soit en vérité, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Ne les en empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, dit Jésus. Et il est bien important de comprendre ici qu'il est question de personnes qui agissent au nom de Jésus. Quand on dit ceux qui ne sont pas contre nous, ils sont pour nous, ce n'est pas n'importe qui. C'est ceux qui agissent au nom de Jésus. C'est pour ça que cette notion en mon nom est très importante ici. Agir au nom de Jésus, ça veut dire quoi? C'est reconnaître que tout vient de lui. Si je ne reconnaissais pas que ça vient de lui, si je faisais des guérisons, je disais, c'est mon don qui vous guérit. Ça, ce n'est pas au nom de Jésus. Celui qui agit au nom de Jésus-Christ reconnaît que tout vient de lui, que c'est lui le maître, et que pour agir en son nom, eh bien, il est aussi son représentant. Si on représente quelqu'un, il faudrait un petit peu être au courant de ce que cette personne veut transmettre. On ne peut pas dire quelque chose, dire « je suis représentant » sans savoir ce que l'autre veut transmettre. Donc agir au nom de Jésus, c'est reconnaître que tout vient de lui, que c'est lui le maître, et que pour agir en son nom, pour le représenter, pour le mettre en avant, il faut être d'accord avec lui. Impossible d'agir au nom de Jésus et être contre lui. Sinon, ce n'est pas une action en son nom, c'est l'usurpation de son nom. Ça, c'est Matthieu 7, etc. Jésus parle ici, par la suite, d'un verre d'eau. C'est intéressant, pourquoi il parle d'un verre d'eau? On parle d'un miracle, des démons qui sont chassés, puis lui, bon, il dit, ok, ne l'empêchez pas, mais il continue pas sur cette même direction, il dit, en fait, même la chose la plus simple à donner, particulièrement dans nos pays avec l'abondance de l'eau, est quelque chose qui attire la bonté de Dieu, les bienfaits de Dieu. Jésus parle d'un verre d'eau, une des choses les plus simples, hein, et il donne deux conditions pour indiquer qu'une récompense sera donnée. Pardon. Donc il donne deux conditions pour dire que la récompense sera donnée. Les voici. Le verre d'eau est donné au nom de Jésus. Le verre d'eau est donné en mon nom. Vous vous souvenez, je vous avais dit que c'est un élément clé, on le retrouve ici. Il est donné au nom de Jésus. Et deuxièmement, le verre d'eau est donné à quelqu'un parce qu'il est au Christ. Parce qu'il est au Christ. La première condition nous indique que le verre d'eau n'est pas donné pour sa gloire personnelle. Tu te souviendras que je t'ai donné un verre d'eau. Non. Le message, c'est plutôt, tu te souviendras que Jésus prend soin de toi. Et ce verre d'eau que je te donne te permet de t'en souvenir. Parce qu'en plus, ça te désaltère. Tu as un souvenir physique que Jésus prend soin de toi. Puis c'est au nom de Jésus que je te le donne. Et la deuxième condition nous indique qu'il faut premièrement chercher à répondre aux besoins de ceux qui sont autour de nous, nos frères et sœurs. Il ne faut pas premièrement chercher à répondre aux besoins de la pauvreté du monde entier. C'est très écrasant et souvent très paralysant. Non, premièrement, prendre soin de nos frères et sœurs en Christ. Comme nous sommes appelés à prendre en premier soin de nos familles avant de nous occuper de toutes les autres personnes. Pas pour ne plus nous occuper des autres personnes, mais plutôt pour ensuite nous occuper des autres personnes ensemble. Jésus veut que ses disciples ne se réjouissent pas seulement de celui qui chasse les démons en son nom, mais aussi de celui qui donne un verre d'eau en son nom. Donc non seulement il dit ne l'empêchez pas, mais il leur dit que non seulement de se réjouir de ce qu'il vit, mais même de quelqu'un qui donne un verre d'eau au nom du Seigneur Jésus. Jésus ne demande pas des actions d'éclat. Donner un verre d'eau en son nom fait partie de l'accueil de base. Cherchons donc à vivre nos journées en agissant en son nom. Cela nous poussera à réfléchir à nos actions, car nous ne pouvons pas faire n'importe quoi au nom de Jésus. Il faut que réellement, eh bien, il puisse dire, ok, ce que tu fais, c'est en mon nom, dans le sens que ça correspond à mes valeurs. Pour agir en son nom dans notre vie quotidienne, nous soulageons de devoir trouver des exploits pour faire plaisir à Dieu. Faire le ménage en son nom, travailler pour son employeur en son nom, faire les devoirs demandés par les profs en son nom, et tant de choses communes qui peuvent devenir des lieux où nous pouvons agir au nom de Jésus, comme lui le ferait, de manière à ce que Jésus soit honoré. Et nous pouvons le faire parce que nous sommes morts et ressuscités avec lui. C'est le message de base que Jésus a donné au départ. En conclusion, un commentateur a dit ceci, ce que Jésus demande pour être le premier est accessible à tous. Pas besoin de venir d'une famille noble ou aisée, d'avoir une bonne éducation, une grande intelligence, d'être fort ou adroit, doué dans l'art oratoire ou fin psychologue. Nul besoin non plus de réaliser un exploit, il suffit d'être le serviteur d'autrui et d'accueillir les méprisés et les rejetés du monde. Rappelons-nous les trois paroles fortes de Jésus dans ce texte aujourd'hui. La première parole pour notre salut, verset 31. « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Deuxième parole forte pour notre objectif de vie, verset 35. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et troisièmement, pour notre joie, quand quelqu'un agit au nom de Jésus, verset 40, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et je termine par la citation trouvée dans une méditation que je trouve édifiante, la voici. De la manière la plus pointue et la plus poignante qui soit, Jésus parle aux disciples de sa mort prochaine. Il est clair que les disciples ne comprennent pas bien ce qu'il dit, mais ils ne posent aucune question. Ils ne manifestent pas de chagrin ni même d'inquiétude. Non, ils passent rapidement au sujet qui est vraiment important pour eux et qui révèle les véritables désirs de leur cœur. Après l'annonce de Christ de la mort violente qui l'attend, il commence immédiatement à se disputer pour savoir qui est le plus grand. À ce moment, leur royaume claustrophobe, d'un seul coup, se heurte au royaume de gloire et de grâce de Dieu. Ces royaumes se heurtent également aujourd'hui, et seule la grâce peut nous faire aimer le royaume de Dieu plus que le nôtre. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, quel bienfait de pouvoir voyager dans ce journal de Pierre écrit par Marc, de pouvoir être face à des personnes qui vivent des choses comme nous, des personnes qui parfois sont bloquées dans des questionnements, ont peur, n'osent pas dire qu'ils ont fait quelque chose qui, ils se rendent bien compte, n'est pas très bien. Mais Seigneur, comme tu l'as fait avec tes disciples encore aujourd'hui, tu t'approches de nous. Seigneur, tu ne les as pas rejetés. Tu n'as pas dit, voilà, je savais que vous étiez si mauvais. Non, Seigneur, tu les as enseignés. Tu leur as même premièrement ici parlé de ce que toi tu allais faire. Et nous pouvons maintenant comprendre que cela signifiait que tu leur donnais la clé du salut pour être libérés de ces habitudes, libérés de cet orgueil, pour ensuite vivre l'enseignement que tu leur as donné. Et nous voulons, Seigneur, te prier vraiment de nous donner cette grâce, de comprendre ce salut. Tu as été livré pour nous, tu es mort pour nous, tu es ressuscité. Et cela nous permet d'être complètement libérés. Tu nous purifies de tout cet orgueil qui nous éloignait de toi. Cet orgueil qui nous faisait croire que nous pouvons vivre sans toi. Cet orgueil qui nous faisait croire que nous devions nous-mêmes trouver notre place. Cet orgueil qui nous faisait croire que nous devions rejeter tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Éternel, nous j'aimerais te dire merci parce que aujourd'hui encore, tu veux que nous nous réjouissions de ce que tu fais au travers d'autres personnes. Et nous voulons, Seigneur, nous en réjouir. Et nous voulons nous réjouir aussi de pouvoir être à ton service et de voir encore ton œuvre aussi parmi nous. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.